Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au jeudi 28 mars de l'année de grâce 2024. Il sonne 11h, passé de quelques instants sur La Nouvelle Génération. Et merci de nous choisir pour ce quatrième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou Vitok Bitomiga est à la mise en onde. Jérôme Dakoucha sur la mise en ligne. Je suis au micro Pascal Loussou. Notre plaisir est d'autant plus grand quand nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière, à Niho, Radio La Paix, à Takpame, Central FM, à Sokodé, Radio Daoul Abassa, Sama FM, à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et vous comprenez que nous sommes écoutés partout au Togo. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos radios ou du moins à nos plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrères journalistes déjà installés, c'est Michel Yao Tchadja. Michel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à nos confrères, bonjour à tes invités et puis bonjour Canal FM.
Encore, on est un peu fatigué?
Non, ça va.
Ça va.
On rend grâce.
Dieu merci. Oui. Jean Legrand Polérini, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour particulier parce que c'est la première fois que toi et moi on se voit dans la 5e République.
Mais tout compte fait, quand tu parles de 5e République, ce n'est pas encore promulgué, on en discutera tout de suite.
Oui, okay. Bonjour à confrère Michel, à nos invités, bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée et à toutes les personnes qui nous écoutent sur Canal FM. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui m'est très chère, c'est ma maman qui fête aujourd'hui un an de plus. Et je voudrais profiter également de la même occasion pour interpeller EcoBank. On ne sait pas quel est le souci. Depuis deux jours, il y a plusieurs guichets automatiques de banque qui ne fonctionnent pas dans plusieurs quartiers de Lomé, qu'ils essaient de voir quel est le problème pour vraiment aider les clients. C'est vraiment compliqué. Vous allez de guichet en guichet, il n'y a pas de billets.
Merci. D'accord, je pense que le message est passé. Club de la Presse, c'est aussi des invités. Hein. Invité ce matin, c'est Christelle Dico. Christelle, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM, bonjour aux lecteurs et lectrices de Dagan Magazine.
Justement, quand on parle de Christelle Dico, c'est Dagan Magazine. J'ai entre mes mains déjà Dagan Magazine et à la une, lors de, ou du moins à la couverture, justement, je vois 5 ans et je vois également les Dagan Magazine que vous avez eu à produire.
Les 29 parutions.
Les 29 parutions, bien sûr. Ouais. Allez, comment a été le parcours?
Ah, le parcours, c'était pas facile. Dagan Magazine est une passion et je pense que c'est parce que j'ai fait ce projet par passion que j'y suis arrivée. Sinon, c'était pas facile. On m'a dit dès le départ, les Togolais n'aiment pas lire. Alors moi, je vais dire, je vais les pousser à lire. J'y arrive tout doucement en mettant ces femmes à l'honneur, effectivement, depuis 5 ans.
Alors, vous avez choisi alors de mettre les femmes à l'honneur telles que vous l'avez dit tout de suite, et ce qui veut dire que vous prenez des davis et vous faites d'elles des dagans.
Non, je prends des dagans et je les confirme dagans.
Ah d'accord, voilà. Si c'est comme ça.
Je prends des dagans et voilà, je montre que nous avons des femmes togolaises qui ont des parcours inspirants, nous avons des femmes qui ont le regard sur leur parcours, ça veut dire qu'elles sont déjà d'un certain âge, elles ont suffisamment de recul pour donner des conseils et pour apprécier leurs succès, leurs échecs et les partager avec la jeune génération. Ce sont des dagans confirmés qui sont là.
D'accord, des dagans confirmés. J'ai vu quand même sur les parutions, les différentes parutions, des dagans, rien que des dagans.
Oui.
Alors, finalement, c'est, comment l'appelle-t-on, c'est ces dagans que vous avez eu à célébrer et tout aujourd'hui. C'est quoi le retour que vous avez?
Mais le retour est positif. Je dirais 30 parutions. Ça y est, je les ai faites, ces 30 parutions en 5 ans. Ça veut dire que j'ai eu des parutions non-stop. Je n'ai jamais raté une seule parution. Ces femmes ont été mises à l'honneur. Elles ont été reconnues comme des dagans. Je pense que mon parcours est parfait, selon moi. J'ai encore beaucoup de choses à faire, mais je suis relativement satisfaite.
Alors, pour le bilan, c'est quoi le bilan que vous établissez?
Le bilan est positif. Aujourd'hui, je me réjouis de dire qu'aujourd'hui, On sait à Lomé qu'il y a un magazine qui célèbre la femme. Même si on ne l'a pas lu, même si on ne l'a jamais tenu entre les mains, grâce à notre stratégie de communication, à nos campagnes de communication régulières, à chaque parution, nous avons pu démontrer au Togo que nous avons des femmes valables qu'on peut appeler Dagan. Aujourd'hui, tout le monde sait que Dagan Magazine existe et tout le monde sait qu'il y a une presse qui valorise la femme togolaise en particulier.
Mmh. Oui, je suis satisfaite. Et vous allez continuer par valoriser la femme togolaise?
Ah oui, c'est la ligne éditoriale de Dagan Magazine et je n'ai pas l'intention de m'en écarter. Hein. Je vais continuer de valoriser la femme et avec le projet d'aller un peu à l'intérieur du pays, de dénicher en fait nos Dagans de l'intérieur du pays aussi. Et je sais que nos annonceurs vont nous accompagner sur ce projet.
Alors, dans les 5 ans, vous avez eu à faire paraître pratiquement 75 000 exemplaires de ce magazine
trimestriel féminin.
Justement.
100% togolais.
Alors, quelles sont les difficultés?
Les difficultés sont les difficultés d'une jeune entreprise. C'est la même chose. On a besoin de budget pour pouvoir produire plus. On a besoin de budget pour pouvoir communiquer. Malheureusement, on ne fait pas souvent confiance aux jeunes entreprises. Donc, lorsque vous créez une jeune entreprise, vous êtes obligé de faire vos preuves avant que les annonceurs vous accompagnent. Donc, c'est ça. C'est l'aspect un peu délicat de la chose. C'est que vous croyez en votre projet, mais les annonceurs ne vous accompagnent pas forcément automatiquement. Voilà, ils ont peur que l'affaire s'arrête en chemin, qu'ils investissent et tout ça. Donc la difficulté, elle est essentiellement financière. Sinon, nous avons un grand réseau de distribution qui nous permet de distribuer Dagan dans toutes les administrations, la présidence, la primature, l'Assemblée nationale, etc. Donc nous, on veut partager le magazine, on veut produire encore plus. Le souci, c'était les annonceurs, c'est ça. Mais ça commence à venir. Ça commence à venir. 5 ans pour qu'on nous fasse confiance. Mais ça vient.
Ah oui, d'accord. Quand nous prenons le magazine, c'est vrai que l'équipe rédactionnelle est composée pratiquement que des hommes. Moi, je me dis, comment vous expliquez cela?
Qui mieux que les hommes peuvent honorer la femme? Voilà, évidemment, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que l'équipe rédactionnelle de Dagan est composée d'hommes. Je suis la seule femme, et donc je suis la directrice de publication. Je suis celle qui apporte la touche féminine à ce journal. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Loin de là, j'aurais bien souhaité être entourée que de femmes. Mais malheureusement, je n'ai eu à disposition que des hommes passionnés par la femme, qui ont envie d'écrire pour la femme. Et j'apporte ma petite touche de directrice de publication pour masquer un peu ce côté masculin de l'équipe.
D'accord, voilà. Ok. Parlons maintenant alors des 5 ans, la célébration alors de ces 5 ans. Je sais quand même que vous avez un programme alléchant. Comment ça va se dérouler?
Oui, nous avons un programme alléchant. Nous voulons montrer à nos lecteurs et nos lectrices que nos Dagans sont bien réels. Le thème de cette célébration, c'est « À la rencontre de nos Dagans ». Donc, on a 10 Dagans qui se sont prêtés au jeu d'être panélistes sur cet événement. Donc, nous allons célébrer nos 5 ans, nous allons souffler notre gâteau, nous allons faire un peu le bilan des 5 ans et puis accompagner d'artistes togolais de renom comme Kossi Apesson, Charles Ozo et notre star nationale Almok qui a bien accepté ainsi que ses collègues de venir célébrer avec nous ces 5 ans. Et ça va se passer le samedi 30 mars à Agora Saint-Gor.
Le samedi prochain.
Là, dans 2 jours, à Agora Saint-Gor, à partir de 14h. Ça va être époustouflant. Sincèrement, on vient de loin avec Dagan Magazine. On a su s'imposer dans le paysage médiatique. On va célébrer ça ce jour-là.
Allez célébrer cela ce jour-là.
Oui. Alors, cette victoire.
Oui, c'est une victoire. Pendant 5 ans, Dagan Magazine existe toujours et Dagan Magazine va toujours exister.
Et des parutions sans arrêt, en fait. On n'a pas eu de rupture de parution. Même pendant la Covid, nous avons sorti un numéro. C'était notre 7e numéro en plein Covid. Ça a été un défi pour moi, mais on l'a fait. Et on a mis la planète Terre à qui on a fait porter un masque pour la Covid. C'était elle, notre Dagan, ce jour-là. C'était impressionnant. Nous venons de loin, nous allons célébrer les 5 ans.
C'est très important à célébrer. Oui. Et quelles sont les perspectives?
Les perspectives de cet anniversaire, c'est que tout le monde soit content déjà, que tout le monde sache que nous sommes bien présents et que nous n'avons pas l'intention de baisser les bras, de savoir que en 5 ans, nous allons remercier tous ceux qui nous ont fait confiance, tous ceux qui nous ont soutenus, tous ceux qui nous ont poussés à ne pas baisser les bras, seront célébrés ce jour-là.
Alors, ce jour-là, je sais qu'il y a un influenceur, quelqu'un qui vous apporte alors son soutien, son accompagnement chaque fois et sur les réseaux sociaux. On le voit sur TikTok, oui. Et bien sûr, on le voit, c'est Sango Morning. Bonjour.
Bonjour, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et bonjour à tout le Togo parce que c'est la première fois que je viens à Lomé, donc je suis ravi d'être là pour soutenir une amie de longue date qui fête les 5 ans de Dagan Magazine.
Alors, comment vous avez découvert Dagan et quel est concrètement l'appui, l'accompagnement que vous apportez à ce magazine?
Alors, pour me présenter très rapidement, je suis Steve Mambungi de mon vrai nom et je suis le CEO de Sango Money. Sango Money qui est une start-up qui est basée en France. Et donc, j'ai également une casquette d'influenceur sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où j'ai plus de 2 300 000 followers. Et donc, Christelle est une amie de longue date qui, dès ses débuts, m'a parlé effectivement de Dagan. J'ai apprécié le concept de mettre en avant les femmes parce que je considère que les femmes peuvent apporter une touche un peu différente des hommes dans la société et faire évoluer les choses. Donc tout de suite, j'ai adhéré au concept de Dagan Magazine et j'ai fait effectivement des publications TikTok pour présenter le magazine à mes followers qui sont nombreux ici au Togo. Et qui, j'espère d'ailleurs, seront de la fête le samedi. Donc, je les invite à venir très nombreuses faire la fête pour la femme togolaise et plus généralement pour la femme africaine.
Alors, et pour vous, quel est ce regard que vous avez sur la femme en général?
Alors, moi, j'ai un double regard parce que je suis de culture africaine, mais j'ai passé beaucoup d'années en Europe. Donc, avec cette évolution, on va dire, européenne de la conception de la femme, donc il y a un peu un brassage entre ces deux cultures qui fait que dans tous les cas, moi j'ai plutôt tendance à penser que la femme peut apporter de façon équitable sa contribution à la société, mais pas uniquement sur une place effectivement de femme comme on a tendance à penser, pas forcément à tort, mais enfin. En tout cas, il y a des raisons, c'est culturel, mais il faut faire évoluer les choses, il faut essayer d'amener la femme plus au centre de l'évolution de la société et la faire participer au même titre que les hommes.
D'accord. Et Christelle, oui. Pour finir, nous allons inviter les uns et les autres, surtout des lecteurs de Dagan Magazine, et ceux qui sont des amoureux de Dagan Magazine, à venir massivement ce samedi, et déjà à partir de 14h.
Oui, déjà à partir de 14h, nous voulons commencer à 15h tapante, parce que c'est le samedi de Pâques, et on voudrait terminer à 19h pour que tout le monde puisse, en tout cas ceux qui doivent, puissent se rendre à la veillée pascale. Donc on va commencer à l'heure. Et je voudrais vraiment dire aux lecteurs et aux lectrices que c'est le moment de montrer que nous n'avons pas eu tort de mettre à l'honneur nos Dagans. C'est le moment de montrer à nos Dagans que nous les honorons, nous les reconnaissons et que nous sommes fiers d'avoir ces femmes-là dans notre paysage. Donc, je demande à vraiment tous les lecteurs, toutes les lectrices, Sango Money, donc, qui est un ami qui a souhaité me soutenir en appelant ses followers, donc les songistes. Donc, je suppose qu'il leur réserve aussi une surprise ce jour-là pour tous les songistes qui vont se déplacer. Donc, moi, j'appelle tous les lecteurs et lectrices de Dagan Magazine, tous les amoureux de Dagan Magazine, tous les amoureux de la femme togolaise de se manifester nombreux ce 30 mars à Agora Senghor à partir de 15h. Ce sera un moment inoubliable.
D'accord, Sango, vous avez vraiment des surprises pour les songis?
Tout à fait, tout à fait.
Quelle sera la nature de cette surprise?
Alors, on ne va pas dévoiler tout de suite les surprises, il faut qu'elles viennent. Dans tous les cas, je sais que sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup apprécié par la gente féminine. Notamment pour mes déhanchés au niveau des zouk. Donc, ce serait éventuellement des danses, avec chacune de mes followers.
D'accord. Christelle, bonne célébration à vous.
Merci beaucoup, Pascal. Soyez des nôtres. Justement, Pascal, j'y serai.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci d'être passé dans cette émission. Merci. Je pense tout simplement que nous allons passer maintenant au débat. Chers confrères, bonjour. Michel, bonjour.
Bonjour Pascal.
Voilà, nous allons maintenant passer au débat. Voilà, nous sommes rejoints par Ambroise Monzo. Ambroise Monzo, à toi.
Oui, bonjour Pascal. Bonjour les confrères ici présents. Bonjour les auditeurs et auditrices, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Juste leur dire que pour le moment, nous ne sommes pas dans la 5e République. Il faut qu'on soit clair. Parce que le Togolais est éduqué dans la vérité et la justice. Et à ce titre, nous estimons que le président Faure Gnassingbé ne va pas promulguer cette loi, cette constitution, dont les procédures, que ce soit en la forme que dans le fond, sont viciées, et que nous nous retrouvions dans la sérénité. Parce que, avec cette loi, cette constitution, le lendemain n'est pas assuré pour les Togolais.
D'accord. Nous allons revenir sur le sujet.
Oui, on en parle. C'est par rapport au feu. Je voudrais maintenant mon coup de gueule, c'est par rapport au feu tricolore d'Atikoumé. On en avait parlé, on en a discuté aussi avec certains ministres la dernière fois. Ce matin, il y a eu plusieurs cas d'accident non voulu, quoi. Du simple fait que le feu vert s'est allumé et tout le monde veut aller en même temps. Donc, que ces feux-là, on l'avait dit, qu'on fasse tout pour les enlever.
D'accord. Alors, c'est vrai, nous l'avons appris que notre confrère, le doyen, comme d'aucuns aiment l'appeler, Apollinaire Mewenemese, je veux bien parler alors du directeur de publication du journal La Dépêche, est un garde à vue. Hein, il y a de cela même d'ailleurs 3 jours, et le journal est Flambeau des démocrates, hein, qui titre à sa une alors sur le sujet ce matin, La Presse en danger, 3e jour de garde à vue pour le directeur du journal La Dépêche. Michel? Un journaliste en garde à vue, c'est vrai, on sait, on a compris que c'est à cause alors d'un article, hein, que le directeur de publication MONMSC a écrit, bien sûr, et c'est ce qui fait qu'il est dans cette situation aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, avons-nous encore besoin quand même de cela?
Ah, est-ce que je peux répondre à ta question? Avons-nous besoin de cela? Je ne saurais dire quoi que ce soit, mais ce que je peux laisser entendre, c'est que nous sommes vraiment tristes de constater que un des nôtres est dans le pétrin, un des nôtres est en situation difficile, parce que chaque fois qu'un journaliste sera dans une situation difficile, je pense que ça interpelle la conscience de nous tous qui exerçons ce métier-là. Et moi, personnellement, j'avais cru que à partir du moment où la HAC avait pris le soin de sanctionner notre doyen, comme nous l'appelons, j'avais cru que le problème là est derrière nous. Mais j'ai été surpris qu'il y ait ce rebondissement. Et j'aurais appris même en rentrant dans ce studio qu'il va passer ce matin, s'il ne l'a pas encore fait, qu'il va passer devant le procureur de la République. Or, on sait nous tous, quand un journaliste passe devant le procureur de la République, on sait
ce que ça donne par après.
Ce que ça donne par après. Donc, nous sommes très inquiets. Très inquiets parce que, bon, je ne vais pas aller dans le fond parce que je ne maîtrise pas très bien le fond, mais c'est ce qui se passe, c'est la forme que je suis en train de voir et que nous avons appris que le doyen ne se porterait pas bien et avec son âge aussi
tout
avancé
à fait, voilà.
Et donc se retrouver encore de l'autre côté, et vraiment on se pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui va se passer après. Bon, comme Dieu est toujours bon, je pense que d'ici là il fera ce qu'il peut pour que peut-être cette affaire-là soit vraiment réglée devant le procureur, que le doyen Manemessé retrouve sa famille, quoi. C'est ma prière, moi.
C'est votre prière et je pense que c'est notre prière tous ensemble. Jean Polerini, c'est vrai, pour cette affaire où déjà le journaliste est un garde à vue, ça doit inquiéter.
Oui, ça nous inquiète à plus d'un titre, comme Michel l'a tantôt dit. C'est le seul doyen qui nous reste actuellement. Il faut préciser que le journal La Dépêche est la plus vieille parution privée actuellement au Togo, avec 31 ans d'âge. Et pour plusieurs analystes, il fait partie de ces journaux-là qui ont gardé une certaine indépendance, voilà, à travers le temps. Et aujourd'hui, le voir placé en garde à vue, et J'ai également appris la nouvelle qu'il va probablement être passé devant le procureur aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous attriste, d'autant plus que le doyen a été le premier président de l'OTM, l'Observatoire togolais des médias, et aujourd'hui le voit dans cette affaire. Franchement, c'est difficile, c'est compliqué pour nous parce qu'il ne faut jamais souhaiter cela à un journaliste. Et moi, je me posais également la question, après que la HAC l'ait sanctionné pour trois mois privés de parution, nous pensions que bon, c'était la plus grosse sanction qu'il pouvait avoir. Parce que l'instant de régulation s'est auto-saisi, ils ont fait leurs observations, voilà, assorties de ce qu'il fallait. Et puis bon, le monsieur a été sanctionné avec le journal. Bon, pour nous, il garde le moral et après trois mois, il sera dans les kiosques, mais patatras. Nous avons tous découvert la semaine passée qu'il y a une convocation à la BRI et à la DGPN pour lui. Toujours dans cet article-là, qui a été écrit fin février, concernant l'assassinat du colonel Vital Amajulba. Nous espérons véritablement qu'il va avoir un dénouement de situation, d'autant plus qu'hier, j'ai appris que les organisations de presse, notamment le CONAP, le PPT et l'OTM étaient partis le rendre visite.
Hier.
Et je crois que des discussions de couloir, des négociations seront faites pour que véritablement on n'arrive pas au pire. Parce que comme Michel l'a aussi dit, le doyen, c'est un septuagénaire. Et avec la santé déjà déclinante, vous savez ce que c'est. Encore quand on vous envoie de l'autre côté avec les conditions, ma foi, certains sont allés, sont revenus, ce qu'ils ont dit. Il ne faut jamais souhaiter ça. Donc, tous les moyens qui sont disponibles, qui sont possibles, qu'on puisse trouver une solution rapidement à ce cas, nous en appelons vraiment de cela à nos voeux.
Voilà. En bref, il est très important quand même qu'on trouve les moyens nécessaires pour régler ce problème à l'amiable, afin que le doyen ou le confrère journaliste puisse recouvrer sa liberté.
Oui, c'est le souhait de tous, je crois. Sauf que nous sommes au Togo et malheureusement, les choses ne se déroulent pas comme tu le souhaiterais ou comme on le souhaiterait. Vous savez, mes deux confrères ont quand même soulevé la forme de cette interpellation ou de cette convocation dans une affaire quand une première instance condamne la personne ou une institution condamne la personne déjà dans la même affaire. Je ne crois pas que cette dans le même pour la même cause, pour la même personne, on puisse encore condamner cette personne. Et c'est ce que la HAC est une institution. Et la HAC est une institution, la justice aussi est là, sauf que les deux font leur travail. La HAC, c'est l'organe de régulation des médias, pour le rappeler, et l'organe des défenseurs de la liberté de la presse. Peut-être eux-mêmes qui sont là-bas, la HAC, ils ignorent souvent cet aspect des prérogatives de la HAC. C'est bien écrit dans le code de la presse, sauf qu'il ne joue pas forcément ce rôle-là. C'est vrai, ils régulent, ils font le monitoring, tout ça, mais les journalistes demandent plus, protéger les journalistes, protéger les médias. La situation dans laquelle se trouve Apollinaire Mbembe, qu'on appelle le doyen, affectueusement, c'est la HAC maintenant qui devait défendre Apollinaire Mbembe. Parce que tout ce qu'il a écrit, c'est dans son support journal. C'est dans le support journal, c'est dans son journal papier qu'il a écrit. Et donc, de facto, il est protégé par la loi. Il est protégé par le code de la presse et la loi organique de la presse. Et quoi qu'on en dise, les gens peuvent amener leur droit de réponse. Il n'y a aucun souci. Ils peuvent en discuter pour que lui-même, il en fasse des excuses. Ça aussi, c'est dans le journal. Au même endroit, dans la même parution. Et peut-être après deux semaines, après la parution. Il suffit qu'ils s'entendent. Mais peut-être que certains ont été gênés, ont été mis en mal, se sont vus griffonner dans l'article. Et ce que les gens ne soulèvent pas, ce n'est pas forcément le cas de l'assassinat de Majulba. Il y a cette lettre posthume que le doyen a publiée. D'abord, moi, je ne vois pas le fait qu'un monsieur de cet âge-là et de ce rang d'exercice en termes d'expérience dans le journalisme puisse publier un truc. Ça, c'est moi qui le dis.
Oui.
Publier un truc. D'abord, moi, je ne mens pas. Je ne suis pas blanc, mais je ne mens pas. Quand Ambroise dit quelque chose, c'est qu'il sait de quoi il parle. Parce que les faits sont têtus.
on ne peut pas hasarder pour mentir. On nous a appris, chez moi, à la maison, de ne pas mentir, de ne pas voler. Donc de dire la vérité, quelle que soit la situation.
C'est des valeurs que vous avez reçues.
Et c'est depuis la maison. Et de rendre justice. Mes grandes soeurs sont là, mes frères sont là, ils peuvent témoigner ça. Sauf qu'ici, Apollinaire Mounier, mais ça ne peut pas publier un truc qui n'est pas vrai. Pourquoi il le fait? Pour quel intérêt? La question qu'on doit se poser, pourquoi il le fait? Pour nous à qui? Pour nous à qui? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand même à l'antenne.
Tout à fait.
Vous savez, moi, Abdou Assouma m'a appelé. Je ne connais pas son numéro. C'était en 2021. Il a appelé. J'ai dit, mais c'est qui? Je le dis parce que ce que mon message a publié, peut-être, c'est à moi, on pourrait donner ça. Mais le monsieur m'a appelé avec un 90-11. Il est décédé. Hein. Je parle parce que beaucoup de confrères ont... J'en ai parlé, puis il ne m'a jamais appelé. Plutôt, il m'appréciait par rapport à ce qu'on a fait, des émissions qu'on a fait sur New World TV. Moi, il dit, moi, je dis Kodo, tout ça là, la prestation du serment. Mais j'étais plutôt... Je dis, moi, je vous ai envoyé des flèches. Il dit, non, je vous encourage à continuer. Félicitations, tout ça. Déjà, quand vous écoutez la poursuite de la personne, vous savez que la personne déjà est changeante. Ça dit, ça, c'est mes analyses personnelles. Oui. Sauf que je n'ai pas eu le courage de le rencontrer avant qu'il ne décède. Ce qui suppose que, peut-être que, les gens, sentant leur mort, des fois, peuvent donner des choses. Est-ce que vous me suivez? Ça m'est arrivé deux fois. Seulement, je ne vais pas citer de nom. Des oncles qui ont voulu que je les voie avant qu'ils ne meurent, de me donner quelque chose. Mais je les ai ratés 24 ou 48 heures avant qu'ils ne décèdent. Ça veut dire que, quelque part, moi, je ne peux pas dire que ce qu'Apollinaire a publié, c'est la fausseté. Ici, qui est-ce qui a porté plainte? C'est la grande question qu'il faut se poser. Les gens parlent des enfants de Abdou Assouma. La plupart sont en Europe ou aux États-Unis, tout ça. Soit c'est le procureur même qui s'est saisi de ce dossier. Sauf que dans les mêmes cas, il y a des dossiers de détournement de fonds. Des gens ont foulé de l'argent dans ce pays. Le procureur ne s'en saisit jamais. Il ne se met même pas.
D'accord.
Et vous imaginez que c'est le même procureur qu'à chaque fois qu'un journaliste a un petit problème, c'est lui qui s'en saisit. Donc si c'est le procureur qui se saisit, là je dis bravo. Sauf qu'il y a des voleurs dans la République qui ne prennent jamais.
D'accord. Ok, merci beaucoup, Ambroise. Nous allons aborder un autre sujet, puisque nous, notre prière, tel que Michel l'a dit, c'est pour que du moins cette affaire trouve alors un dénouement heureux, pour que notre confrère soit libéré et qu'il puisse facilement vaquer à ses occupations comme cela se doit. Alors, Michel, nous allons aborder maintenant cette question alors de 5e République, puisqu'il y a beaucoup de journaux qui en parlent, surtout que c'est ce qui fait l'actualité aujourd'hui. Michel, dans votre journal aujourd'hui, vous en avez parlé, vous avez abordé le sujet et vous écriviez à la une de votre journal « Nouvelle Constitution, les innovations, une lutte plus rude contre la corruption ». Alors, d'autres journaux sont revenus sur le sujet. On prend le journal Écho du Pays qui écrit « Critique autour de la révision constitutionnelle et si cette nouvelle constitution nous offrait du mieux ?» et s'interroge alors le journal. Autre journal qui revient également sur le sujet, c'est le Changement. Le journal Le Changement, contestation de la réforme constitutionnelle. Le régime renoue avec l'interdiction musclée des activités de l'opposition. Alors, il y a le Guardian, vous écrivez aussi à la une de votre journal sur le sujet Vive le roi. Nouvelle constitution, bien sûr, vous écrivez nouvelle constitution, nouveau régime, Vive le roi. Et vous mettez à la une, alors, de votre journal, la photo du président Faure Gnassingbé. Le journal Symphonie aussi revient sur le sujet et parle alors de 5e République, Yawa Tegan, et qui cite même d'ailleurs la présidente de l'Assemblée nationale, et qui inscrit justement alors des propos de la présidente. C'est à bon droit que la 6e législature a procédé à l'adoption de cette proposition de révision de la Constitution. Alors, nous savons exactement ce qui se passe sur cette affaire, sur cette révision constitutionnelle. Et on a vu aussi des réactions des partis politiques de l'opposition surtout. Hier, il y a des partis politiques et également regroupements alors d'organisations et des organisations de la société civile également qui voudraient manifester et organiser même une conférence de presse. Mais après tout, ils ont été dispersés par les forces de l'ordre et par après, ils ont eu à faire quand même cette rencontre au siège alors de l'ANC. Michel, quand on suit tout, ça veut dire tout simplement que cette question de révision constitutionnelle passe mal auprès alors de la classe politique, surtout de l'opposition.
Voilà, tu as bien précisé, auprès de la classe politique et de l'opposition. Sinon, en principe, le problème ne devait pas se poser. Les humains sont ce qu'ils sont, et lorsqu'il y a un acte qui est posé, c'est bien normal que les gens donnent leur avis. Et vous comprenez donc la réaction des uns des autres. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Sauf que, bon, certains, quand vous les suivez dans leur réaction, ils ne convainquent personne. Peut-être ils ont peur dès le lendemain. C'est normal aussi parce que, vous savez, lorsque dans la circulation, de tous les jours, lorsque nous prenons un tournant, on fait attention parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut avoir devant. Et c'est comme ça, moi, je trouve que ceux qui réagissent, pour la plupart, peut-être que, bon, c'est un tournant politique de notre pays. Et peut-être ils ont peur de qu'est-ce qui va arriver devant. Sinon, on ne l'a jamais expérimenté, le régime parlementaire. Et ceux qui ont fait la proposition, ceux qui ont voté cette loi, ils ont bien lu les choses des motifs. Ils ont compris que ceux qui ont fait la proposition, ils avaient des arguments. Ils ont avancé des arguments. Et si je prends par exemple l'instabilité liée à l'organisation des élections présidentielles dans notre pays, vous vous rappelez les élections de 1993, 1998, les élections de 2003, surtout les élections de 2005. Quand vous voyez les dégâts que ces élections-là ont causés dans notre pays, comparés par rapport à ce qui se fait lors des élections législatives, je pense que le choix est clair. Vous comprenez, il y a beaucoup d'autres raisons qu'ils ont avancées, qui, ma foi, quand vous lisez vraiment avec une tête froide, vous comprenez que on veut voir si les problèmes auxquels nous sommes confrontés aussi, si on peut les régler à travers ce régime parlementaire. Mais maintenant, ce que je vois, c'est que comme on ne sait pas qu'est-ce qui va être fait, on ne sait pas si ce qui va se faire dans ce régime-là, est-ce que ça va régler nos problèmes? Parce que les problèmes, nous les connaissons. Est-ce que ça va régler nos problèmes? C'est là où certains sont dubitatifs, certains sont hésitants et tout. Mais les contorsions juridiques que fabriquent certains vous disent que tel n'est pas légitime, tel n'est pas légal, hors mandat, moi je trouve que c'est des débats inutiles. Ce n'est pas la peine. Tout le monde sait qu'en 2013, on devait faire les élections en 2012, on ne l'a pas fait. Et on a continué jusqu'en 2013. Ceux qui étaient là, à l'époque même, je rappelle qu'il y avait des partis politiques de l'opposition, mais personne n'avait dit que non, on est hors mandat, bon, et arrêtons. Non. Donc, cette assemblée avait travaillé. Donc, moi, je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qui va être fait pour améliorer, si on pense que ce régime parlementaire va aider à régler nos problèmes par rapport à l'injustice, par rapport à la misère.
Le chômage.
Si on pense que... Mais si on doit être dans le régime parlementaire, constater que, comme on le voit aujourd'hui, certains sont sur la montagne, ils sont au bord du lac, ils sont au bord de la mer, ils sont sur la colline, ils sont partout. Les seuls, ils sont partout. Si on constate ça comme ça dans un régime parlementaire, là, on n'aura pas réglé les problèmes. C'est pourquoi nous attendons de voir. Il faut, pour le moment, c'est un tournant. Et on veut aller voir devant qu'est-ce qui va se passer avec ce régime-là.
D'accord.
Le reste, les gens passent leur temps à raconter leur vie. C'est de voir est-ce que nous allons nous en sortir. Sinon, comme on ne l'a pas encore expérimenté, on ne peut pas dire que c'est mauvais.
D'accord. Ok. Merci beaucoup, Michel. Alors, Jean-Paul Rény, Canal D, vous titrez à la une également sur le sujet Togo 5e République, bienvenue au Parlement. C'est acté, l'opposition vent debout, les évêques pas d'accord. Et c'est vrai, quand on suit tout, on a vu quand même que ce texte a été déjà voté par l'Assemblée nationale. C'était le lundi dernier, le 25 mars. Aujourd'hui, quand on suit tout, qu'est-ce qui va changer?
Oui, Pascal, merci pour la question. D'abord, je tiens à préciser que mes propos n'engagent que moi, parce que souvent, quand nous tenons des propos ici, les gens ont le malin plaisir de les relier à d'autres personnes, et on se dit que non, voilà, c'est lié à telle personne. Mais ces propos n'engagent que moi en tant que directeur de du journal Canal D. Oui, il faut dire qu'au niveau du régime parlementaire, ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, le président n'est plus élu au suffrage universel direct. Il est élu par le Congrès composé de l'Assemblée nationale et du Sénat pour un mandat unique de 6 ans. Et maintenant, une fois que l'Assemblée nationale, elle est élue, c'est-à-dire une fois qu'elle prend fonction, elle nomme maintenant un premier ministre. Bon, on appelle le président du Conseil, justement, président du Conseil.
Des ministres.
Des ministres, voilà. Et on va assister à une dévolution du pouvoir. Ici, nous avons le président du Conseil qui est notamment... qui a véritablement le pouvoir entre les mains, et à travers le régime parlementaire, c'est le Parlement qui va beaucoup plus agir au lieu que ce soit l'ancien système dans lequel on avait le président qui était tout fort, tout suffisant et qui pouvait prendre tous les actes et toutes les décisions. Ici, nous apparentons vers un système où c'est le président du Conseil qui va véritablement œuvrer, qui va conduire la politique du gouvernement, et le président, le chef de l'État, lui, il aura à peu près un titre honorifique, il est le garant de l'unité nationale, voilà. Dans le principe, moi je dis que le régime parlementaire en lui n'est pas mal. Aucun régime n'est ni bon ni trop bon et l'un est mauvais. Tout régime comporte des avantages et des inconvénients, des failles, des forces et des faiblesses. Maintenant, là où moi je me pose une question, est-ce que le timing était le bon ? Les exposés que les députés ont envoyés à l'Assemblée nationale, quand vous lisez le motif, le texte en lui-même ne pose pas véritablement problème. Quand on dit qu'ils ne sont pas légitimes, mais que disent les textes en droit positif, ils sont là jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle assemblée.
L'article 52, bien sûr, de notre Constitution.
Ce qui veut dire qu'ils sont légitimes, légalement, l'acte qu'ils ont posé est normal. Parce que cette disposition de la loi ne stipule pas qu'il y a des actes qu'ils ne peuvent pas poser.
Non.
Il y a un vide qui est posé là-bas. Donc, légalement, ils ont droit. Maintenant, il y a un autre article qui dispose que la manière dont le président est élu ne peut être modifiée que par voie référendaire. Qu'est-ce qu'on fait de cet article? Moi, je dis ici, il faut que les juristes viennent nous édifier, viennent nous expliquer. Parce que le drap est tiré dans tous les sens. Et moi, vraiment, je suis un peu, je vais dire, un peu triste que pour une situation juridique, on est plusieurs camps et que le droit, il n'y a pas un droit unique pour nous tous. Ma foi, moi, ça me dérange un peu. Maintenant, d'un autre côté, si le texte en lui-même ne pose pas problème, l'autre question, c'est est-ce que le timing est bon? On dit que la Constitution est faite pour un peuple. Quand vous allez au niveau du Maroc, au niveau de l'Arabie Saoudite, ces peuples sont d'accord avec les systèmes politiques. C'est des rois à la base. Le peuple, ça ne dérange pas le peuple. Mais maintenant qu'on veut une constitution pour le peuple, est-ce que le peuple a été consulté? Moi, c'est ma question. Et est-ce que le timing est bon? Une chose qu'on fait, on dit tout ce qu'un adage dit, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, est fait contre moi. Vu notre histoire sociologique, vu le contexte dans lequel nous sommes, est-ce que c'était opportun que cette loi passe actuellement? C'est la question que moi, en tant qu'esprit éclairé, avisé, moi, je me pose. Est-ce que ce qui est fait de façon rapide, c'est vrai, on parle de régime parlementaire, ce n'est pas une simple modification, c'est quelque chose qui va impacter la population.
C'est une nouvelle constitution.
Et il faut comprendre que nous étions à peu près 10 mois des élections, si l'élection est pour février, nous sommes à 10 mois, 11 mois. Et le Togo s'apprêtait à organiser les élections législatives et régionales. Couplé, quelque chose qui est déjà nouveau pour nous. Les régionales sont nouvelles. Quand on couple ça, c'est encore nouveau pour nous. Mais directement, quand on introduit une révision constitutionnelle, une nouvelle constitution, moi, je me pose beaucoup de questions. Et déjà, quand vous observez la tension, comment les politiciens sont en train, la classe politique de l'opposition est en train de sortir, déjà hier, certains ont été empêchés d'organiser leur conférence. Moi, c'est déjà inquiétant. Je pose la question de savoir, est-ce que pour une révision constitutionnelle, on a encore besoin de se faire mal. L'histoire de ce pays nous a enseigné beaucoup de choses. C'est pour cette raison que le chef de l'État a mis en place la CENAP, un cadre de concertation des politiciens, pour qu'on puisse discuter des affaires de la nation.
pourquoi est-ce que cette révision-là n'a pas été introduite, n'a pas été discutée avec les acteurs politiques? Il faut quand même préciser que le régime parlementaire a été discuté il y a longtemps, c'était une option. Mais maintenant que ça devait être acté, est-ce qu'il ne serait pas bien que les acteurs politiques puissent s'entendre et qu'on évite du grabuge?
D'accord.
Je trouve que ce n'est pas normal que pour une révision, pour un peuple entier, on soit encore à couteau tiré.
D'accord, merci beaucoup. Chers confrères, nous allons observer une pause au niveau de la technique, on revient.
93.5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et nous discutions même d'ailleurs de cette question de révision constitutionnelle à lundi, ou même d'ailleurs d'une nouvelle constitution qui a été adoptée, le Togo qui bascule maintenant dans un régime parlementaire, et ça fait vraiment l'actualité et ça discute alors sur pratiquement beaucoup de plateformes et dans les médias bien sûr, et nous en parlons aussi ici au Club de la Presse. Ambroise, oui, quand on pose la question aux ONS de savoir qu'est-ce que ce régime apporte alors de nouveau, la plupart, ou bien ces gens-là qui sont pour ce régime disent tout simplement que c'est l'alternance. Or, on sait que l'alternance, c'est ce que l'opposition demande depuis longtemps. Donc, on pourra dire quand même que ça apporte quelque chose de bien là.
Oui, c'est une très belle question. D'abord, je voudrais dire que poser d'abord la question, quelle est l'opportunité de cette réforme? Ça, c'est la première question. Et l'organe qui a initié, est-ce que son mandat n'est pas fini? Vous savez, d'abord, fouiller en Afrique de l'Ouest, dans quel pays en Afrique de l'Ouest il y a ce régime? Ce régime avait, il a dit, ce régime avait été discuté par le passé, mais les gens ont choisi le régime semi-présidentiel. Avant que le président Faure Gnassingbé n'ait viré à un régime présidentialiste, c'est-à-dire un renforcement dur des pouvoirs du président. Dans ça, on était depuis 15 ans. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi les gens ont choisi d'aller à un régime, c'est-à-dire Faure Gnassingbé, oui, à l'actuel président qui avait fait deux mandats. Le débat couvait au temps des maîtres à Gouibo, jusqu'à ce que les gens arrivent à limiter le mandat en 2019. Et que ce mandat finisse bientôt, pris entre deux feux, pris entre la fin du mandat, lié au protocole additionnel de la CDAO, qui va rebondir parce que les militaires qui ont fait coup d'État au Niger, au Mali et au Burkina, ont eu des contre-coups par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais eux, ils revendiquent, ils le disent que c'est parce qu'il y avait des coups d'État constitutionnels et institutionnels. Donc la CDAO, pour se revaloriser, pour se crédibiliser, doit formellement, intrinsèquement limiter les mandats. Donc il y a un feu à gauche qui atteint Faure Gnassingbé. Le second feu qu'il atteint à droite, c'est l'amélioration de la démocratie dans certains pays. Le Ghana, le Bénin, le Sénégal tout récemment. Donc les gens sont en démocratie, les gens font l'alternance au pouvoir. Alors qu'ici, depuis 60 ans, 20 ans pour lui, rien ne bouge. Alors, entre les deux feux, quelle est la possibilité de Faure Gnassingbé pour s'éterniser au pouvoir? Il doit créer une parcellette, partie par le milieu, en faisant quoi? En créant un régime. Maintenant, revenons au régime parlementaire dont on parle, puisque nous sommes juristes aussi. Le régime parlementaire voudrait dire qu'on voudrait donner le pouvoir au peuple à travers ses représentants à l'Assemblée.
Tout à fait.
C'est ça, pour le Togolais lambda du CM2, c'est ça. Oui. Donner le pouvoir au peuple pour que le peuple s'exprime à travers ses représentants. Ce qu'on n'en a pas eu ces 5 dernières années. D'accord. Maintenant, si les gens veulent réellement donner le pouvoir au peuple et qu'ils savent que c'est le peuple qui détient réellement le pouvoir et la souveraineté, pourquoi avant de modifier la constitution et à virer vers un autre régime, ils ne sont pas revenus à ce peuple-là à travers un référendum pour consacrer une autre constitution? À travers d'abord une consultation nationale, revenir maintenant à un atelier de validation à travers des forces vives et maintenant avoir un draft pour pouvoir soumettre à qui de droit
donc, aller au référendum. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un travail qui a été fait en amont comme cela avec la commission Awanana?
Effectivement. Au temps de Awanana, il y avait une consultation qui avait été faite. Ça, c'est le minimum de respect qu'on a eu à devoir au peuple togolais. Et on était effectivement y aller. Allez, même la simple CVJR. Simple CVJR, au temps de Tokumbo, de Ige Ola Tokumbo, de HDCS, il y avait eu des consultations nationales. Nous, déjà en 2008, on était à Kara, on nous a formés pour pouvoir accompagner le processus-là. Mais une constitution, c'est la loi fondamentale. C'est le socle de vie de tout un peuple, de toute une nation, de tout un État. Mais ici, ces 21 députés d'un parti, fut-il uni au pouvoir, qui se sont décidés.
Non, c'est pas une seule.
C'est pas une seule.
Il y a l'opposition.
Puisque c'est un groupe indépendant.
Est-ce que j'ai la parole? Ceux dont le nom sont venus à nous, c'est les députés unis.
Non,
avant que certains. Je viens, non. Ils sont nombreux.
Puisque quand on prend Innocent Kagbada, qui
est
également, il ne fait pas partie de l'Union.
Quels sont ceux qui sont nombreux dans le lot? Non. Qui a initié? L'initiative est venue de Uni, pas de Kagbada, ni de Tama, ni de Kabwa. C'est eux, ils se sont jeunes pour voter.
Non, c'est eux.
D'accord, on laisse. L'essentiel, c'est qu'on sait qu'il y a un groupe de députés à l'Assemblée, qui ne sont pas nombreux, sur les 91, qui ont décidé de changer la vie du Togo.
Mais au moins un cinquième, c'est ce que notre constitution dit.
Je vous dis que quand on donne le pouvoir, quand on donne le pouvoir au peuple, et que le peuple, le mandat que le peuple vous a donné, le mandat a expiré, vous n'avez pas le droit de toucher à quoi que ce soit, même si dans le cadre de un mois. Le peuple vous a donné un mandat, le mandat de 5 ans est fini. Vous n'avez pas le droit de toucher la constitution que le peuple vous a dit de gérer. Maintenant vous pensez derrière le peuple, vous allez faire autre chose. Ça, on appelle ça comment? C'est un coup d'état constitutionnel. Les coups d'état que les militaires font ailleurs, ça là c'est pire. C'est ça même qui amène le coup d'état militaire. Pour vous dire qu'en réalité, quand on veut aller directement dans un régime parlementaire, comme ça se passe en Israël, en Angleterre, le pire encore dans ça, c'est qu'on vous dit que le président du Conseil des ministres, qui détiendra désormais le tour des pouvoirs, sera élu sans débat. Le mot sans débat même me choque. Comment on peut élire un président du Conseil qui est pratiquement le premier ministre dans un régime parlementaire ou dans un régime semi-présidentiel dont la majorité est opposée à ceux qui sont à l'Assemblée? Ce régime qui détient un premier ministre qui a tous les pouvoirs, cabinet militaire, nomination des hauts fonctionnaires, et ce premier ministre ou ce président du Conseil des ministres soit élu sans débat à l'Assemblée. L'Assemblée, c'est le représentant du peuple. Et s'il y a quelque chose à dire, c'est le peuple qui en parle à travers ses représentants. On interdit maintenant au peuple de donner sa voix, de donner son option, de donner quoi que ce soit à travers celui qu'on élit. Même si c'est un mouton, on peut le laisser, il n'y aura pas de débat. Vous voyez là-haut, il y a une entorse.
D'accord, merci
beaucoup. C'est mon gars.
Oui, merci beaucoup, Ambrose. Et Michel?
Il faut dire à mon frère, ouais, faut dire à mon frère Ambrose de se calmer.
Merci, quoi. Michel.
Vous savez, c'est vrai que depuis quelques jours, depuis lundi, après le vote, il y a des débats passionnés, il y a des débats qu'on mène sur les réseaux sociaux, sur les plateformes numériques et tout. Mais ce qui est sûr, nous attendons la promulgation de cette loi de la part du...
Elle peut ne pas être promulguée aussi.
C'est ce que les évêques demandent, bien sûr.
Non,
s'ils aiment ce peuple... Il ne faut pas qu'il promette cette constitution.
S'il
aime vraiment le peuple,
merci beaucoup.
Tout simplement que les évêques ont donné leur position. Ce n'est pas la première fois que les évêques font des sorties devant certains sujets, en tout cas brûlants. Et donc, ce n'est pas une surprise que les prélats prennent la parole. Ils le font d'habitude, ils ont donné leur position. Il revient au chef de l'État, puisque c'est sûr qu'il est au courant de cette position des prélats, mais il y a aussi des associations de la société civile.
Tout à fait, des organisations de la société civile, bien sûr.
Qui félicitent même les parlementaires pour leur courage, pour. Au regard de tout ce que notre pays a connu.
Les gens qui ont peur du peuple.
Depuis les indépendances.
Sur ce point, justement, il y a des associations.
Ils ont quel courage.
Il y a cette déclaration que vous avez publiée, même d'ailleurs, dans votre journal aujourd'hui, déclaration de l'Alliance citoyenne des organisations de la société civile pour la démocratie et l'état de droit au Togo.
Oui.
Ils demandent plutôt quand même que. Enfin, ils apprécient même d'ailleurs.
Ils apprécient, ils encouragent les. Ils félicitent même les parlementaires qui ont eu le courage après avoir ressassé tout ce que nous avons eu comme problème dans notre marche commune, les problèmes politiques que nous avons, que vraiment ils trouvent bienséant, ils trouvent normal que les députés quand même puissent doter notre pays de ce nouveau régime qui va régenter notre vie commune. Et il pense que à travers ce régime, le pays peut amorcer vraiment son développement sans qu'on passe beaucoup de temps à nous cogner dessus, quoi. Vous voyez, donc c'est pour dire tout simplement que si les évêques, eux, ils disent de ne pas prouver, il y a aussi des associations, c'est des Togolais aussi qui ont le droit aussi de se prononcer. Et ils soutiennent l'action donc des députés. Dans tous les cas, Ambroise le disait, est-ce que le thème, il y a l'autre, mon frère Jean aussi, qui disait l'opportunité, tout ça là, non, c'est des débats qu'on a déjà dépassé tout ça là. L'opportunité, je ne sais pas, il y aura quel temps qui va décider d'un temps propice pour le faire. Bon, je ne sais pas s'ils ont quelqu'un qui viendra de Jérusalem pour dire que bon, c'est demain qu'il faut, c'est opportun demain de faire. Non. Et que les députés sont hors mandat, tout ça, c'est pas là, c'est terminé, fini, depuis.
Mais non, moi, la question que je me pose...
Mon problème, je l'ai dit, oui. Et si vous voulez, je vais le redire.
Oui, oui, rapidement.
C'est, qu'est-ce qui va être fait pour... C'est vrai, les essais de motifs, on les a lus, on a vu, j'ai parlé des innovations, elles sont nombreuses, hein. Mais est-ce que, pour le moment, on nous a dit... On va mettre à l'œuvre avant de comprendre réellement si vraiment ce régime-là va vraiment nous sortir de la situation.
Oui, je suppose. Moi, je pose même cette question oui. pour demander, mais écoutez, oui, en quoi le régime parlementaire peut nous apporter du développement?
Mais ils l'ont dit. Je ne sais pas si tu as lu la mouture ou pas.
Donc toi, tu les crois, Michel? Tu les crois comme ça? Tu parles comme ça?
Non, Ambroise,
s'il te plaît.
On laisse Michel.
On laisse Michel terminer.
Attends. Michel, on fait leur proposition et c'est leurs collègues ont compris que c'était une bonne chose. Et ils sont allés, ils ont compris l'idée de leurs camarades qui ont fait la proposition, ils ont voté. Maintenant, tu dis si je suis d'accord avec eux, non, je suis d'accord, mais ce qu'on dit dedans, c'est ça qu'il faut prendre. Pour ce que tout a été dit dedans, la mouture elle circule. Mais non, les croire, mais non. La c'est pourquoi je dis.
Mais le peuple n'a pas
la mouture finale.
Ils ont besoin de la mouture. Personne ne connaît la mouture depuis tout.
Ok, Jean, oui.
On peut gérer un pays comme ça.
Non, ça va. Non, la mouture est là.
Oui, Jean, elle est là. Jean, je vous repose cette question. C'est quoi la corrélation, la relation qui existe entre le régime parlementaire et le développement?
La question, c'est elle qu'on devait peut-être poser à ceux qui sont à la base de cette proposition et qu'on revienne vers le peuple. Je le dis encore. C'est-à-dire, ce qu'on veut nous donner, ce qu'on veut nous proposer, il faut qu'on comprenne. Vous savez, même si l'idée qui sous-tend cette proposition est bonne, aujourd'hui, les Togolais, beaucoup voient d'un mauvais tout ce qui est proposé directement.
Oui, parce que il semble que ce n'est pas leur préoccupation.
Voilà. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse au moins expliquer, avec le régime présidentiel, voici ce qu'on n'a pas pu faire, voici ce
c'est
qui
expliqué,
nous a...
C'est expliqué dans, le, dans,
oui,
le, dans la proposition.
Oui, c'est expliqué dans la proposition, mais est-ce qu'il y a une consultation qui vient vers le peuple?
C'est ça, là.
J'ai dit ceci parce que quoi? Laissez-moi terminer.
C'est l'air du peuple
qui parle. S'il vous plaît, ils représentent eux-mêmes là-bas. S'il vous plaît. Ils représentent eux-mêmes. S'il vous plaît.
Vas-y,
oui, Jean, s'il te plaît, vas-y.
Aujourd'hui, il y a des associations, des organisations de la société civile qui soutiennent le Parlement, ce que le Parlement fait. Mais il y a de l'autre côté d'autres qui ne sont pas d'accord.
Tout à fait.
Et même les évêques qui sont...
Il y a le Front Citoyen Togo debout.
Voilà, et les évêques qui sont...
Tout le monde.
Une autorité. Non, pas tout le monde.
Même la vendeuse de Bénin.
Non,
tout le monde. Tout le monde.
Non.
En vrai, c'est la somme
de
tout le monde, s'il vous plaît.
Non, c'est pas tout le monde.
Écoutez, s'il vous plaît. Pour que nos auditeurs puissent mieux nous comprendre, il est très important quand même qu'on aille un à un.
Jean, vas-y. Il y a les évêques qui sont une autorité morale. Ils sont sortis au créneau parce que quand on parle de cohésion sociale, on parle de paix, on parle d'union, il y a des actions, des projets. Quand on veut les faire, il faut qu'on prenne l'assentiment de tout le monde. Voilà pourquoi quand on veut faire certains projets,
non, c'est difficile.
On parle d'études, mais on ne peut pas prendre l'avis de tous les citoyens lambda.
Voilà.
Mais ça, je suis d'accord avec. Mais au moins, il y a certaines bases qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, le chef de l'État est reconnu comme un médiateur en Afrique. Moi, je trouve qu'il serait malséant
qu'aujourd'hui nous ayons des crises dans notre pays du moment où le président Fonia Singbe est reconnu et adoubé au niveau du Mali, du Niger, de tous ces pays. Mais dit que dans notre pays, certains ne sont pas d'accord.
D'accord, merci
parce
beaucoup.
Qu'il y a une constitution qu'on veut mettre en place.
Merci
ça
beaucoup.
Va fonctionner et merci. Ça va donner
d'accord.
Une tâche
merci, merci
à la
beaucoup,
mission
qui Ambrase, Ambrase, oui. Est-ce que nous ne sommes pas déjà aussi dans une nouvelle crise comme cela?
Merci pour le mot. C'est là où je voudrais en venir. Nous rentrons de plein pied dans une crise grave à travers ce scandale. J'appelle ça un scandale. Tout simplement parce que tous les pays qui nous entourent, tu as posé une question pertinente. Avec le régime semi-présidentiel et présidentiel qu'ils ont dans leur pays, Ouattara, qui veut même faire un quatrième mandat, il a eu à construire des échangeurs. Il y a 6 terrains qu'il a construits pour la CAN. Il a eu à construire des hôpitaux. Mais que diable, ici, au Sénégal, allez voir les échangeurs. Tout ce que j'ai cité là, rien de tout ça ici. Pourtant, les gens ont fait 60 ans, 20 ans pour un régime semi-présidentiel, présidentialiste et tout. Maintenant, on veut aller à un régime parlementaire. Je vous donne 10 ans. Si jamais ce régime parlementaire. Le pire, c'est que le président du conseil là, dont on parle, sera élu pour 6 ans renouvelable. Aucune limite de son mandat. Ce qui peut dire que monsieur devient roi. C'est la une du journal de Guadiane. Nous rentrons de plein pied dans la monarchie. La monarchie existait. Sauf que cette monarchie sera consacrée et certifiée ISO 2024. Pour vous dire qu'en réalité, les Togolais doivent penser. Et ce qui m'énerve, quand vous n'êtes pas content, Togolais, quand vous restez chez vous à la maison, la Constitution vous donne le droit de manifester, de réagir et de dire votre réprobation. Ça là, c'est un scandale.
D'accord. Merci beaucoup, Ambrase. Notre train est déjà avancé. Et nous allons maintenant donner aussi la parole
la
à nos
auditeurs. La crise, elle est où?
Elle est où? Nous sommes de plein pied dans la crise.
Nous allons donner aussi la parole à nos auditeurs puisqu'ils nous ont écoutés passionnément même d'ailleurs. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô?
Allô, oui, bonjour. Bonjour, mon ami Tadja.
Bonjour, Didier. Comment vous allez?
Comment ça va, Tadja?
Oui, ça va, ça va. Allez-y.
Allô? Oui. Je voulais dire, monsieur le journaliste. Ouais, le pays là même, on nous prend pour des imbéciles, quoi. Ou bien les gens qui ne pensent pas. Vous l'avez vu, par exemple, quand vous prenez les pays où on se cite. Qui a eu ces problèmes-là, où il y a eu les régimes parlementaires. Vous prenez par exemple l'Italie. L'Italie, ce sont des régions qui se sont rassemblées pour former l'Italie. Vous avez la Sicile, vous avez Napoli, il y a plein de trucs là. Quand vous prenez par exemple l'Angleterre, ce sont les grands États présents, Écosse, il y a l'Angleterre, mais avec des petits sous là. Quand vous prenez l'Allemagne, c'est les Landais, par exemple Bavière. Ouais, c'est les pays là qui, même l'Israël dont on nous parle là, vous voyez comment la composition des Israéliens, les gens qui sont venus de nulle part, et puis ceux qui les unissent, c'est la religion juive. Donc, on ne peut pas nous imposer ces religions. Et puis, ce qui m'étonne, c'est-à-dire, vous trouvez normal que la base même de ce qu'on nous propose est fausse. Le président nomme le tiers des sénateurs qui vont s'ajouter aux parlementaires pour nous élire. Est-ce que c'est normal? Le président, lui, nomme déjà tiers. C'est-à-dire, quand il y a trois, il nomme un. Les uns là ne vont pas laisser. Et c'est les gens qui vont nous unir. Est-ce que c'est normal? Donc, au moins, il faut qu'ils disent que tout le monde soit. Ils disent qu'ils veulent donner la parole du peuple. Non. Pourquoi le président lui doit nommer le tiers? C'est pas la tricherie, ça? Merci.
Merci beaucoup, Didier. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Ça va. Votre nom?
C'est Basile.
Basile.
Oui.
Allez-y. Basile.
Oui.
Oui, diminuez le volume de votre poste qui est à côté de vous.
Oui, c'est bien.
D'accord. Allez-y.
Je salue le plateau aussi. Hein.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Ce que moi, je ne comprends pas. Quand il y a de ces choses, il y a d'autres qui comprennent mieux. Ce que la majorité ne comprend pas. Il ne va pas être libre qu'on fasse quelque chose à l'air libre. Pour que tout le monde arrive à comprendre. Pourquoi on fait ça en catimini? Pourquoi on le fait en catimini? Comment on va changer toute une construction? On ne consulte pas le peuple. Et on dit que c'est des constructions que ces députés sont hors mandat, tout ça là. Est-ce que notre constitution a dit que le mandat n'est plus à 5 ans pour les députés? Le mandat est toujours à 5 ans. L'article 51, on vous le dit, on va le maintenir, on va le maintenir. Les gens sont là parce qu'il n'y a pas d'autres députés pour le moment, mais ils ne peuvent pas faire un changement qui va engager toute une nation. Mais comment est-ce qu'on va expliquer ça aux gens? C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi les gens nous expliquent ça? Qu'est-ce qu'on va nous expliquer là-bas? Est-ce qu'on n'a pas été à l'école? Non.
D'accord. Okay.
Pourquoi on arrive à faire un jour là?
D'accord. Merci beaucoup, Basile. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Oui. Bonjour.
Bonjour. C'est Comi?
Non. C'est Benoît Dagoué.
Ah, Benoît. Allez-y.
Bon, hier, vous avez une de vos invités vient de dire que si le président Faure Gnassingbé aime le Togo, bien aime les Togolais, il ne faut pas qu'il signe ou bien qu'il promulgue la loi. Et jusqu'à présent, la FEDEAO n'a rien dit, l'Union africaine n'a rien dit. Le train que a pris maintenant le chef de l'État, rien ne va l'arrêter. Et la loi, là, ça va. Laissons le chef de l'État. Est-ce que nous aimons, et vous demandez si le chef de l'État aime le Togo ou bien aime les Togolais? Est-ce que nous, les Togolais, nous aimons le chef de l'État ou bien nous aimons le Togo? Nous sommes pleins d'hypocrisie. C'est ça, c'est tout. Bonne journée.
Bonne journée à toi aussi, Benoît. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, et chez vous, c'est Évangéliste?
Oui, c'est Évangéliste, salut Philippe Gâté.
Oui, allez-y.
Vous savez, il faut qu'on sache qu'on est là pour un petit temps. Hein? On est là pour un petit temps. Le titre constitutif de Dieu n'est pas pour le maire de petit type de personne. Non, vous voyez, non. Donc, tout ce que moi, je veux dire, je veux dire, c'est le temps que tout ce que nous faisons pour des cas positifs, négatifs, on va le rapporter. Et nous allons aussi les titres finalistes à nous apprendre. Sinon, comment est-ce qu'on peut constater? Ce matin, je suivais un monsieur à la radio Victoire qu'on a reçu, je vais dire son nom. Écoutez, je dis un jury, et à haut niveau, tout dit, mais ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas se faire. Mais écoutez, commençons par ce que moi, en pays, il y a Tara, à Dounon. Et puis, la misère, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de misère, c'est un peu à l'aider. Mais est-ce que dans ce pays-là, où il y a le désert, le désert est malade, comment? Tu as la tête à l'hôpital? Non! Mais écoutez, les prélats ont demandé au chef de l'État. Il fait que vraiment, c'est ton papa, il peut plus griser en arrière. Parce qu'on doit respecter les Togolais et les élections. Non, je sais comment dire. Moi, c'est que je vais me suivre.
D'accord. Merci beaucoup. Évangéliste Senghor, 22 21 33 114. Allô?
Oui, bonsoir.
Bonjour, comment vous allez?
Avec vous.
Ça va aussi? Le nom, c'est?
C'est Arès.
Arès, allez-y.
Oui. Je voudrais tout simplement dire que le niveau de notre incrédulité dans ce pays est trop grand, quoi. C'est pas possible. Bon, moi, je ne vais pas trop commenter. Moi, je vais tout simplement dire à ceux qui demandent à la CEDEAO ou à l'Union africaine d'intervenir, qu'ils ne vont pas intervenir. Ils ne vont pas intervenir pour la simple raison que c'est notre pays, le Togo, qui a contribué à fragiliser cette institution-là qu'on appelle la CEDEAO. Et à l'époque, lorsque le président togolais Faure Gnassingbé faisait ces choses-là, beaucoup de Togolais étaient très contents parce qu'ils étaient panafricains, ils soutenaient les coups d'État. Et aujourd'hui, voilà, on veut soutenir la démocratie. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on sache ce qu'on veut. Ces institutions ne feront rien à partir du moment où nous-mêmes nous sommes là. On dort et on appelle des radios pour simplement réagir comme moi je le fais.
D'accord. Donc, bonne journée. Merci Arès et bonne journée à toi aussi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, le nom c'est?
Jonas. Ouais.
Jonas, vous nous appelez de quel quartier?
Pardon?
Vous nous appelez de quel quartier?
Agouet, Agouet.
Agouet, oui. Jonas, allez-y.
Oui. Je me suis demandé. Vous avez posé une question que vos journalistes, vos amis n'ont pas. J'aimerais que vous leur reposiez la question, puisqu'ils répondent clairement. La question, c'est quelle est la corrélation entre le développement et le régime parlementaire? Que Michel et ses collègues nous répondent clairement, disent vraiment ce que, quelle est la corrélation. Et une autre inquiétude, pourquoi on ne nous soumet pas cette motion de constitution? Nous avons aussi des amendements. Pourquoi nous allons voter les députés et nous n'allons pas voter le président? Donc, moi, je préfère qu'on dise que le président nomme les députés élisent le président, qu'on laisse le peuple ne plus voter. Puisqu'on dit qu'il faut faire économie. L'élection présidentielle, quand on la lève là, on fait une économie. Faisons une économie totale. Le peuple ne vote plus. Le président nomme les députés nomment le président du Conseil des ministres. Et bon, et allons-y.
D'accord. Merci. Merci beaucoup, Jonas. 22 21 33 114 91 36 315. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour, je vous écoute. Allô? Allô, bonjour. Michel, il semble qu'il n'a pas de retour. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, j'ai le retour.
D'accord, oui, je le sais. Alors, votre nom, c'est...
C'est Komi.
Oui, Komi, allez-y.
La dame, elle, hein?
Non, non, elle est déjà partie.
Oh là là. Ok. Et sur ce qui concerne le changement de la constitution, moi, je suis un peu mal à l'aise quand ceux qui sont dans la lutte contre la corruption marginalisent lorsqu'on brime nos têtes. Parce que l'article 52, que les gens citent comme quoi les députés sont en place après leur mandat et peuvent délibérer sur ces questions, avant que l'alinéa ne vienne, il y a un autre alinéa qui dit dans 30 jours précédant leur délai, leur mandat, la fin de leur mandat, ils doivent organiser des élections. Ils sont incapables de faire ces élections-là. Pourquoi ils n'ont pas respecté cet article? J'en passe. Maintenant, ils sont allés faire un changement de constitution. Montrez-moi dans les 159 articles que nous avons dans la constitution, laquelle les autorise à changer de constitution. La constitution ancienne permet la modification de l'article 59 et ce n'est pas référendum. L'article 154 aussi permet la révision par un cinquième et avec les quatre cinquièmes. Mais quel article dans la Constitution dit de changer complètement de Constitution pour passer de quatrième Constitution à cinquième Constitution ou bien République? C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas se lever comme ça, se permettre de changer le destin de tout un pays et des gens se permettent, tu peux dire que passer tout ça là pour faire tes profits et avançons. Avançons dans quoi? À ce jour, ce qu'on nous propose là, qui a le contenu pour qu'on puisse analyser que, ah, vraiment, ce qu'on nous dit là, c'est bon. Ce qu'on nous dit là, c'est pas bon. On n'a même pas le contenu. Comment on peut gérer, ne serait-ce qu'une simple association où les membres de l'association ne connaissent pas les textes, les nouvelles lois qui vont les diriger? C'est dans quoi vous voulez nous dire? Et que vous pensez que le Togolais lambda peut accepter ça comme ça?
Oui, d'accord. Merci beaucoup, Komi. 22, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. 22, 21, 33, 114. Allô?
Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Très bien.
C'est Johannes?
Non, Kofi.
C'est Kofi, ah, ok.
Oui.
Allez-y, Kofi.
Celle qui publie Daga Magazine, elle est toujours là-bas?
Non, elle est partie parce qu'elle a un impératif.
Ok. D'abord, je leur souhaite un joyeux anniversaire anticipé.
Merci.
Mais je tiens quand même à le faire savoir qu'ici au Togo, personnellement, je parle en mon nom personnel, je ne connais pas de Daga ici au Togo.
C'est votre appréciation?
Je ne connais pas de Daga au Togo. Je ne sais pas. Et je sais que dans des trucs antérieurs, elle nous avait présenté des gens comme des dagans. Et si c'est ces dagans-là, si c'est cette dame-là qu'elle appelle dagans, moi je dis non. Au Togo, on n'a pas de dagans. Ah, voilà, à moins qu'elle vienne, qu'elle repasse pour nous expliquer les critères qu'elle met dans ses histoires de Dagan là.
Ok, Kofi, c'est votre appréciation.
Oui. On est là, l'actualité nous apprend beaucoup de choses. On n'a pas de Dagan.
D'accord, merci beaucoup.
Je ne veux pas trop rentrer dans les détails.
Ok, merci. Merci beaucoup, Kofi. 22 21 33 114 91 36 73 75. Allô?
Oui, allô?
Bonjour. Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien chez vous.
Ça va aussi. Votre nom?
Tonton Vie.
Tonton Vie, vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle de Clicamé.
Clicamé, allez-y.
Merci pour l'émission. C'est ma première fois de vous appeler.
D'accord.
Je tiens à relever trois aspects. Trois mauvais exemples que le Togo a offert.
Oui, mon cher Tonton Vie.
Oui.
Et si vous pouvez aussi un peu la voix, ce serait très intéressant.
Oui, je veux juste relever trois mauvais exemples que le Togo a présentés à l'Afrique et au monde entier. En 1963, c'était le premier coup d'État en Afrique. Et tous les pays ont suivi. Deuxième mauvais exemple, c'est quand le papa président est décédé, le fils a pris. Et ça fait aussi son petit bonhomme de chemin en Afrique. Et ça continue. Le troisième, c'est ce que nous venons d'assister. Et nous sommes au 21e siècle. En 63, les gens n'ont pas protesté parce qu'ils avaient peur. En 2005, ça a passé la même chose, mais pour cette fois-ci, il faudrait que le peuple nous voulait que nous sommes tous, nous sommes fatigués.
D'accord.
D'accord,
merci beaucoup, Tonton. Vous avez été compris. 22 21 314 91 36 315. Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Très bien.
Le nom c'est?
Chica de Togocom.
Pardon?
C'est Eric de Togocom.
Catéris. Hein, Eric de Togocom. Voilà, allez-y.
Je salue le plan.
Oui.
Tu m'as bon. Salue le courage de la brave. C'est un métier de Togocom. Parce que.
Décidément, on a des difficultés. Eric, on a des difficultés à vous écouter. Nous serons obligés alors de vous couper. Vous nous excusez. Allô?
Bonjour, Canal.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, par là.
Dieu merci. Votre nom, c'est?
C'est Karim.
Karim, allez-y.
Tout ce que moi, je voulais dire, le gouvernement, tout ce qu'ils ont fait de faire, là. Au fait, nous, la population, ça ne nous dit rien. Malgré que ça nous fait du mal. Mais on ne peut rien dire. Mais maximum, ils ont essayé de nous satisfaire dans le pays. On souffre trop dans ce pays. Le carburant à 100, le péage à 500 francs. Mon village, je n'ai même pas de route. Je n'ai même pas de l'eau à boire. Les ponts même sont cassés sur la route de mon village. Alors qu'il y a des gens qui travaillent pour le président. Et quand tu parles, tu as des menaces partout. Au moins, les gens ont quand même diminué un peu le carburant à 500. Le pays a au moins enlevé les 200 francs pour nous, les taxes. On souffre tout, rien ne va.
D'accord. Merci beaucoup, Karim. 22-21-33-114. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Niamavo.
Oui, c'est Niamavo. Allez-y, Niamavo.
Oui. On veut enfermer un journaliste. En pays Kabir, on dit que. Ça me réveille la tête. C'est-à-dire que le cadavre lui-même sera salu pour sauver le journaliste. Et quand ça se concerne le débat du jour, c'est au Sénégal, ils vont se frotter la main que, à vouloir trop gagner, on perd. C'est-à-dire que le régime a lui au patapaou. Est-ce que vous voyez? Donc, en voulant tricher tous les autres, eux-mêmes qui se sont opérés un coup d'État. Est-ce que vous voyez? Donc, la constitution sur laquelle le président a prêté serment a été modifiée. Et cette constitution était votée par le peuple. Donc, on a arraché ce que le peuple a donné au président, l'a prêté serment. Donc, aujourd'hui, ils ont fait coup d'État au président en temps normal, dans le pays normal. Et vous voyez, hier, on a reçu Malik Matiaba. Quand on cite l'article 59, il dit qu'écoutez, il doit prendre de la hauteur. Mais quand ça va dans leur avantage, il dit qu'article combien? 52 ou bien combien? Et vous voyez? Donc, nous sommes dans un état où, disons bien, il a déjà été conséquent en dissolvant les partis politiques. Ça, c'est clair. Pour faire régner un parti unique. Maintenant, savamment, on peut dissoudre les partis politiques pour dire qu'on va à une autre. Écoutez, tous les Togolais savent, même au sein des militaires, partout, tous les corps, ils savent que rien ne va au Togo.
D'accord.
En tout cas, merci. Ce que je cherchais, ils vont le trouver.
Merci beaucoup, Nyamavo. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Oui, le dernier, c'est M. Gado.
Ah, M. Gado, allez-y.
Bon, la population me demande si M. le Président Faure va mourir au pouvoir. C'est tout ce que les gens me demandent. Merci, bonne journée.
Alors, ok, nous avons écouté M. Gado et je pense que c'est lui le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un tour de table et clôturer cette émission. Michel, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Et quelle est votre réaction?
Non, qu'est-ce que j'ai à dire? Les gens donnent leur opinion par rapport à ce qui se passe, sans toutefois essayer de demander aux autres de ne pas avoir eux aussi leurs opinions. Je pense que c'est ça qui est très intéressant. Mais j'ai écouté M. Komi qui dit des gens qui sont dans la corruption. Et je pense qu'il fait allusion à moi et qui soutient ce projet, en tout cas cette proposition-là, parce qu'il trouve que rien ne donne, ne donnait donc aux députés, aucun article ne leur donnait cette latitude-là. Peut-être qu'il a une compréhension trop restrictive de la Constitution, sinon il aurait pu comprendre que lui-même, il devait savoir que ce qui s'est passé. Je pense qu'il n'est pas plus juriste que ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Tous ne sont pas juristes, mais il y a des juristes à l'Assemblée nationale. Donc, peut-être qu'il a une lecture beaucoup plus restrictive de la Constitution. Donc, ça ne lui permet pas de comprendre grand-chose. Sinon, dans l'ensemble, bon, oui, les gens émettent...
justement, c'est l'avis des
auditeurs.
Bon, justement, c'est l'avis des auditeurs. Mais je voudrais quand même...
Vous savez...
J'aimerais qu'on se prononce un tout petit peu sur la situation au Sénégal avec la victoire alors de Bassirou Diomaye Faye avec 54,28%.
C'est une belle victoire.
Voilà.
C'est Macky Sall qui a fait à lui seul 90% de la campagne pour Bassirou.
Mais pourquoi vous dites ça?
Non, tout ce qu'il a voulu à 24 heures du début de la campagne, tout ce qu'il a, son discours, son fameux discours qu'il a fait à la nation, et ajouté à toutes les prises de parole qu'il a eu à faire, je pense qu'il a contribué vraiment à réchauffer la population contre lui.
Mmh.
Et les résultats sont là. C'est des résultats parfaits qui ne souffrent de qu'une ambiguïté et qui sont vraiment l'œuvre de Macky Sall.
Mmh, d'accord. Et, Jean Legrand, c'est vrai que le Sénégal nous a montré une fois encore que mais il est vraiment un modèle en matière de démocratie.
Oui, le Sénégal a gardé la tradition avec l'élection de Bassirou Diomaye Faye qui est le candidat de la rupture. C'est encore une preuve que les textes demeurent le socle d'une bonne démocratie. Moi, je dis, on peut avoir de bons textes, mais quand les individus qui les animent n'ont pas les bonnes valeurs, on aura des soucis. Mais au Sénégal, ce que nous avons observé, c'est encore la force de ces textes-là qui a empêché Macky Sall de mener à bout son plan machiavélique parce qu'il avait commencé par faire quelque chose de bien, mais qu'il a voulu détruire à la fin. Mais Dieu merci, le bon sens a prévalu. Et aujourd'hui, j'ai pas fini. Tu as donné la parole. Maintenant, sur la question de ce que les auditeurs ont dit, moi, je dis ceci. Le Togolais ne veut pas grand-chose. Il ne veut pas grand-chose. Si le régime parlementaire peut nous permettre de mettre aux arrêts la minorité pieuse que le chef de l'État a dénoncée en 2012, si le régime parlementaire peut permettre que tous les Togolais aient le courant à satiété, qu'on ne coupe pas l'électricité en désordre, que nous ayons de l'eau à boire, que nous ayons des routes, tant mieux que nous allions dans le régime parlementaire. Dernière chose, Faure Gnassingbé est le seul garant de l'unité nationale de ce pays. Quitte à lui de voir si ce projet de nouvelle constitution va être promulgué, si cela ne va pas empêcher la paix et la cohésion sociale qu'il aille. Mais si lui-même, il voit qu'il y a des signaux qui ne vont pas permettre que le Togo, qui est pays de paix, soit vu comme tel en Afrique, qu'il fasse marche arrière.
D'accord. Ambrose,
Oh, oui, ça fait deux sujets.
Justement, rapidement.
D'abord, sur le régime parlementaire, sur le principe, moi, je ne suis pas dans ce véhicule, hein, parce que c'est un véhicule qui va droit dans le mur. En plus, si tel est que Faure Gnassingbé est aussi dans ce pays, président de la République, et que ses députés et les autres veulent aller à un régime parlementaire, et qu'on nous dise que ce régime parlementaire permettrait le développement, la construction des hôpitaux, des échangeurs, tout ce qu'on a, les routes. Et dans ce cas, allons-y dans ce régime parlementaire sans Faure Gnassingbé. S'ils veulent réellement, si c'est pour le développement du Togo, allons au régime parlementaire sans le président actuel, Faure Gnassingbé, en 2025.
Pourquoi on l'exclut ?
Alors, non, non, on ne l'exclut pas. Son mandat finit en 2025. C'est ça, c'est simple. C'est là où le Togolais vaut la foi, la bonne foi des gens. Laissons Faure Gnassingbé, quelque part, il est Togolais, il a fini son mandat. Maintenant, faisons maintenant notre régime parlementaire.
Alors, rapidement, le Sénégal.
Pour le Sénégal.
Vous l'avez prédit.
Oui, pour le Sénégal, je l'ai prédit.
Oui.
Ça fait au moins deux semaines que Diomaye Faye sera élu président. Comme le cas de Talon, je l'ai prédit aussi. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une prémonition très souvent, une calcul politique, une analyse politique que j'ai faite, et c'est arrivé. Et je me dis que le Sénégal en a besoin, ayant tellement, le peuple sénégalais ayant tellement une maturité politique, comme le Togolais, Togolais aussi. La différence qu'il y a entre nous, c'est que les Togolais sont souvent spontanés face à des décisions impopulaires. Au Togo, on en avait vécu ça, dans les années 90 et autres, mais avec la répression, les choses se sont éteintes. Donc, pour le cas du Sénégal, nous saluons la démocratie sénégalaise. Nous saluons la force des institutions au Sénégal. Moi, je salue l'incarnation même de la nouvelle démocratie africaine à travers le Sénégal. C'est le seul pays, pratiquement, en dehors d'autres pays anglophones, qui passe toujours dans le feu, mais retrouve toujours l'or. Parce qu'avant que l'or ne devienne l'or, ça doit passer par le feu.
Oui.
Et le Togo aussi passera par ce feu pour devenir l'or.
D'accord. Merci beaucoup, Ambroise, pour nous être passé dans cette émission. Michel Tchadja, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Jean Le Grand Polérini, merci à toi. Merci à vous, alors, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Akoucha. Je vous annonce tout simplement que demain, vendredi, nous allons faire une émission délocalisée. Nous ne serons plus à Lomé, nous serons à Agbodrafo pour la radio du littoral. Nous allons animer cette émission depuis Agbodrafo. Soyez toujours à l'écoute puisque votre fidélité nous honore. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous bien sûr demain. Je suis Pascal Lossou. Au revoir.